Explique-moi l'Europe.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progresser.
Comment faire l'Europe des travailleurs?
Le podcast de toute l'Europe. En collaboration avec Bull Media.
Au sommaire de ce numéro d'Explique-moi l'Europe, le processus de sélection des commissaires européens et leurs auditions devant les eurodéputés. Bonjour Marie.
Bonjour Antoine.
On va parler aujourd'hui d'un moment singulier de la démocratie européenne. Tous les 5 ans, les députés du Parlement européen auditionnent les commissaires désignés de la Commission européenne.
Oui. Alors, avant d'en parler, on va repositionner les acteurs. La Commission européenne, c'est plus ou moins l'équivalent du gouvernement en France, le pouvoir exécutif de l'Union européenne. L'une des différences, c'est que la Commission européenne, elle n'est pas composée de ministres, mais de commissaires qui sont responsables chacun d'un portefeuille. Il y a, par exemple, les commissaires à l'énergie, au numérique, à l'économie, au transport, ou encore le haut représentant pour les affaires étrangères. Et ces commissaires, ils sont nommés d'une façon assez particulière, puisqu'à un moment, c'est vrai, tu as prononcé le mot « audition », je dirais qu'il passe une sorte d'entretien d'embauche devant les députés européens.
Un entretien d'embauche. Alors on va y revenir dans le détail, Marie, mais il faut rappeler qu'avant d'être auditionné par les eurodéputés, ces commissaires, ils doivent déjà être sélectionnés. Hein.
Oui, alors d'abord, chaque pays de l'Union européenne propose un candidat, puisqu'en comptant le président de la Commission européenne, il y a un commissaire par État membre. Ensuite, il y a des discussions entre le président de la future équipe, qui est élu en amont, on y reviendra, et les États membres pour valider la répartition des portefeuilles entre les postulants. Enfin, troisièmement, nos futurs commissaires sont soumis à un vote d'approbation des députés européens.
Ok, et c'est donc avant ce vote d'approbation qu'ont lieu les fameuses auditions, j'imagine, pour évaluer les capacités des futurs commissaires, c'est ça?
Et oui Antoine, pour vérifier l'indépendance des candidats, leur engagement européen et leurs compétences dans le portefeuille pour lequel ils sont pressentis, tout un processus se déroule en amont du vote, généralement au mois de septembre et octobre.
Explique-moi l'Europe.
Et ça aussi, ça se passe en plusieurs étapes. Hein.
Oui, il y en a 3. 1. Chaque candidat désigné doit soumettre une déclaration d'intérêt qui est examinée par la Commission des affaires juridiques du Parlement européen pour évaluer les risques de conflit d'intérêt avec le portefeuille attribué. 2. Les députés européens ont la possibilité d'adresser des questions écrites aux candidats auxquelles ces derniers répondent. 3. C'est l'épreuve du feu, le grand oral. Les candidats sont auditionnés par les commissions parlementaires en fonction de leur domaine de compétences. Par exemple, le futur commissaire aux affaires économiques est entendu par la Commission des affaires économiques du Parlement européen. Pendant de longues heures, il se retrouve face à des questions très précises sur des sujets très techniques.
Merci madame. Ma question porte sur votre priorité. Croyez-vous uniquement au marché et à la concurrence parfaite, ou pensez-vous qu'il faut une action des États, et plus particulièrement pour mettre en œuvre également une relocalisation de la production énergétique grâce à ce qu'on appelle les circuits courts?
On vient d'entendre une question posée par Jean-Luc Schaffhauser, eurodéputé entre 2014 et 2019, à celle qui était alors, en 2014, auditionnée pour être commissaire à l'énergie, la Slovène Alenka Bratušek.
Oui, et les réponses de cette dernière n'avaient pas vraiment convaincu les membres de la commission spécialisée de l'énergie. Un autre candidat, l'italien Rocco Buttiglione, proposé à la justice en 2004, avait lui aussi été vivement critiqué par les parlementaires pour ses positions sur la famille et l'homosexualité.
Et alors quoi? Que deviennent ces candidats contestés?
Rocco Buttiglione et Alenka Bratušek ont été écartés. Cela contraint les États membres à proposer de nouveaux candidats et éventuellement le président de la future commission à revoir la distribution des portefeuilles.
Donc, les eurodéputés exerce une forme de contrôle sur l'exécutif bruxellois, sur la Commission européenne?
C'est ça, et ce processus d'audition n'en est qu'un petit aspect. Une fois que la Commission européenne est installée, les eurodéputés peuvent aussi adopter une motion de censure pour la faire tomber. Là, on retrouve le schéma classique du contrôle de l'exécutif par le Parlement. C'est la même chose en France, avec l'Assemblée nationale qui peut renverser le gouvernement. Au niveau européen, aucune motion de censure n'a jamais été adoptée, mais en 1999, la commission Santer avait démissionné d'elle-même sous la menace d'un tel scénario.
Donc, on a bien compris l'enjeu des auditions des commissaires devant le Parlement, mais est-ce que ça concerne aussi le premier d'entre eux, j'ai envie de dire le plus important, le président de la Commission européenne?
Oui et non, en tout cas d'une façon différente. Le président, c'est le tout premier commissaire à être proposé par les chefs d'État et de gouvernement des États membres avant le reste de son collège. Et le Parlement européen joue là aussi un rôle important puisque c'est lui qui doit l'élire, mais il ne l'auditionne pas comme les autres commissaires.
I want Europe
Je veux que l'Europe devienne le premier continent du monde neutre pour le climat d'ici à 2050. Je proposerai un pacte vert pour l'Europe pendant les 100 premiers jours de mon mandat. Je proposerai la première loi européenne pour le climat qui va inscrire dans la loi l'objectif pour 2050.
Explique-moi l'Europe.
On vient d'entendre la présidente de la Commission européenne 2019-2024, Ursula von der Leyen. En juillet 2019, avant d'être élue à la tête de la Commission européenne, elle avait dû passer, elle aussi, une sorte de grand oral devant le Parlement.
Oui, mais il ne s'agit pas d'une audition, comme passent les autres commissaires, mais plutôt d'une déclaration de politique générale. L'objectif est de présenter son programme et convaincre une majorité d'eurodéputés en vue de l'élection qui suit ce grand oral. Parce que, comme pour les autres commissaires, désignés en premier lieu par les États membres, il y a toujours une menace de blocage au Parlement européen si une majorité de députés ne se retrouve pas dans les candidats qu'on lui soumet.
Bon, alors on a bien compris que le Parlement européen, il a un vrai rôle dans le processus de sélection de l'équipe qui compose la Commission européenne, mais est-ce que ça, finalement, ça peut conduire à des vrais blocages ?
Généralement, en Europe, on fait des compromis, sinon on n'avance pas. Mais c'est déjà arrivé. Je disais tout à l'heure qu'en 1999, le Parlement avait poussé la commission installée à démissionner. Eh bien, au cours de l'installation d'une nouvelle équipe à Bruxelles, ce qui peut se passer, c'est plutôt un ralentissement du processus. Par exemple, après les élections européennes de 2009, en pleine crise économique et financière, les divisions étaient telles que la commission sortante avait dû continuer à travailler plus longtemps que prévu. Le nouveau collège de commissaires, adoubé tardivement par le Parlement, n'avait pu faire sa rentrée qu'au mois de février 2010, avec 4 mois de retard.
Merci Marie. Voilà donc pour ce podcast consacré aux auditions des commissaires par les députés. Ce qu'il faut retenir, les eurodéputés jouent un rôle actif dans le processus d'installation des commissaires européens et du président de la Commission européenne. Ils ont aussi un pouvoir de contrôle de l'exécutif bruxellois. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le bureau en France du Parlement européen. Retrouvez-le sur toute l'Europe, sur Bulle Média et sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite pour un prochain numéro.